Bienvenue à Okapi Service. Nouveau SMIG à 21 500 francs congolais. Quel impact réel pour les travailleurs et les entreprises? C'est le thème d'Okapi Service d'aujourd'hui. Nous en parlons avec Maître Ursile Lelo, délégué du Bon Employeur au Conseil National du Travail, représentant du secteur agro-industriel, pastoral et forestier. Il est en ligne. Et puis, Madame Mireille Kaloumé, qui est avec nous dans ce studio, membre de la Fédération des entreprises du Congo et déléguée du Bon Employeur au Conseil National du Travail. Bonjour, Madame Mireille.
Bonjour, Madame Jocelyne.
Vous voulez participer à cette émission, composez les 00 85 42 11 547 ou laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook. Benjamin Moudoumbi réalise cette émission. Sylvain Baouveré est à la mise en onde sur la supervision de Jean-Marc Matoki, mais chaque Mboutamoutou assure la diffusion sur nos plateformes numériques. Je suis Jocelyne Moussaou. En République démocratique du Congo, le gouvernement a décidé de revaloriser le SMIG avec une application progressive jusqu'à 21 500 francs congolais. Mais alors que le calendrier prévoyait le passage à ces nouveaux paliers dès janvier, les employeurs demandent aujourd'hui un sursis et proposent un nouveau palier intermédiaire à 19 000. Madame Kaloumé, vous êtes avec nous au studio. Rebonjour.
Rebonjour, Madame Moussaou.
Pourquoi ce revirement?
Je dois préciser d'emblée qu'il ne s'agit pas d'un revirement. Donc, malheureusement, je dirais, nous avons peut-être eu la faiblesse de ne pas nous exprimer à temps. Mmh. Donc, raison de ma présence aujourd'hui. Je pense que le bon employeur a tenté de se faire entendre depuis le premier CNT qui s'est déroulé au mois d'avril. Au cours duquel, effectivement, le banc employeur et travailleur s'est réuni avec le gouvernement pour pouvoir déterminer, et c'était ça l'objectif qui avait été communiqué par Son Excellence Madame la Première Ministre. Donc en avril 2024, le but était de déterminer les conditions d'application du SMIC de 14 500. Alors, ce qui s'est passé, c'est que à l'occasion de ce CNT, il y a eu malheureusement une pression considérable et je dirais irrationnelle de la part du banc syndical, qui a conduit alors, sans qu'aucune évaluation n'ait été menée, et j'insiste bien, il faut vous imaginer que des gens arrivent pour discuter d'un sujet et que donc il y a un sujet complémentaire, 21 500, qui est mis sur la table. Donc, il n'y avait eu aucune préparation qui avait été réalisée pour déterminer ce montant de 21 500. Et je pense que le point de départ du problème vient de là.
Voilà. On va y revenir, mais d'abord, pour une question de pédagogie, pour nos auditeurs qui nous suivent, définissez-nous d'abord les SMIG.
Merci pour la question, et je pense qu'une vulgarisation est nécessaire sur cette question. Bon nombre de personnes pensent en fait que le SMIC, c'est tout simplement le salaire net que le travailleur perçoit. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de réactions, généralement, qui disent, mais 7075 qui était le SMIC fixé en 2018, ils disent, mais c'est très peu, comment ça se fait? Et donc, le SMIC, c'est la rémunération, donc c'est l'ensemble des gains et avantages qui sont, comment dirais-je, attribués aux travailleurs, à l'exception du logement et du transport. Alors, il faut savoir donc que le SMIC, c'est un montant brut. À ce montant brut, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord un retrait des cotisations ouvrières, donc il y a 5% de CNSS, il y a l'IPR, qui va de 3 à 40% selon le montant. Et ensuite, l'employeur est soumis à d'autres obligations supplémentaires. Donc, en plus de ce SMIC, il va payer un logement ou bien mettre à disposition un logement ou une indemnité équivalente. Et il doit rembourser le transport que le travailleur consent pour aller au travail et revenir. Donc ça, c'est très important. Et ça vous amène finalement à un SMIC avec 21 500. Sinon, on ne compte pas le logement et le transport, qui va être fixé à 250 $. Ce qui est, quand on prend le taux actuel, ce qui est vraiment important. lorsqu'on considère par analogie ou par comparaison, par exemple, les SMIG qui sont appliqués dans notre sous-région ici en Afrique. Mmh. Voilà.
Ok, on va prendre notre deuxième invité que j'ai annoncé, Maître Ursile Lelo, qui est délégué au Bon Employeur au Conseil National du Travail, représentant du secteur agro-industriel, pastoral et forestier. Maître Ursile Lelo, bonjour.
Bonjour.
Alors, on parle de revirement avec Madame Calumet. Pourquoi on a parlé de revirement? Parce que c'était déjà un compromis négocié. Madame Calumet nous dit que, enfin, le bon employeur aurait dû s'exprimer plus tôt. Mais pourquoi avoir accepté sans pour autant s'exprimer, Maître Lelo?
Le problème, c'est que quand les prémices sont fausses, les conclusions ne vont pas toujours bien aboutir et le temps finira par nous rattraper. Aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu de base objective. Parce que la réglementation en vigueur en termes d'augmentation de salaires ou encore réactualisation des salaires existe des préalables. Il faut des enquêtes socio-économiques pour essayer de vérifier le pouvoir d'achat des travailleurs et autres éléments. Je crois que au départ, la préoccupation c'était d'indexer les salaires pour avoir le taux de 5 dollars. Maintenant, c'est des logiques. Il y a la logique du réajustement et en réalité, en cas de dépréciation monétaire, lorsque les travailleurs finissent par perdre leur pouvoir d'achat, il faut aller au réajustement. Mais nous avions subi des phénomènes, des décisions contradictoires, ce qu'il y a eu réajustement et il y a eu fixation. Or, on ne peut pas réajuster et fixer parce que il n'y a que les enquêtes qui peuvent conduire à une nouvelle fixation. Or, la fixation des taux de 21 500 a été faite sans une base objective. Ça, c'est d'abord dans le cadre du SMIC en général. Mais par rapport au secteur agro-pastoral et forestier, depuis la décision du législateur à travers le nouveau code du travail pour tenter d'uniformiser le SMIC, ça entraînait plutôt un effet inverse. Mmh. Quel est cet effet inverse? C'est que depuis toujours, et même dans tous les pays d'Afrique qui sont compétitifs dans le secteur agro-pastoral et forestier, le SMIC qui est appliqué dans ce secteur, c'est un SMIC spécial, appelé salaire minimum agricole garanti. Et pourquoi un salaire minimum agricole garantie? C'est qu'en réalité, on ne peut pas comparer les secteurs miniers, les secteurs agro-pastoral et la télécom ou encore la finance. C'est que ce ne sont pas les mêmes secteurs. Et à travers le monde, les secteurs agro-pastoral et forestiers sont des secteurs qui sont subventionnés, des secteurs qui bénéficient des exonérations, des avantages pour stimuler la production, la compétitivité. Mais par contre, en République démocratique du Congo, aujourd'hui, nous avons moins de 50 entreprises agro-pastorales et forestières formelles et compétitives. Pourquoi? Parce que il y a ce défi de l'uniformisation du SMIC qui ne tient pas compte de la réalité de ce secteur. Et au-delà de ça, dans l'article 91 du Code du travail, la linéa D, le législateur avait proposé des mesures d'allègement pour essayer de pallier les difficultés du secteur. Mais il se fait que depuis 2002, à dater de la promulgation du Code du travail jusqu'à ce jour, le secteur n'a jamais bénéficié d'une mesure quelconque d'allègement. Et en 2011, le législateur a pris conscience du caractère stratégique du secteur agro-pastoral et forestier, parce que nous sommes un grand pays, une grande nation à vocation agricole et pastorale, et nous sommes la plus grande puissance agricole d'Afrique, mais avec environ 80 millions d'hectares. Mais aujourd'hui, nous ne vivons que de la dépendance alimentaire d'importation dans d'autres pays.
Mais maître Lelo, est-ce que vous estimez que le secteur, vous estimez que le secteur agricole est vulnérable par rapport à d'autres secteurs et doit bénéficier de traitements particuliers?
Ce n'est pas moi qui le dis. Oui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le législateur qui le dit. Et la pratique des droits comparés le démontre à travers le monde. L'Union européenne, malgré toutes les infrastructures, ils accordent des subventions, ils ont même une politique agricole commune pour essayer d'inciter et accorder d'acquis la compétitivité à leurs agriculteurs, éleveurs et aussi à leurs secteurs forestiers. La Chine en fait de la même manière. Mmh. Le Brésil le fait, l'Inde le fait. Et au niveau du pays africain, des pays comme la Côte d'Ivoire le fait, le Sénégal le fait, tout ça. On ne peut même pas citer le Maghreb qui est encore plus compétitif que nous. Et quelle est la conséquence? C'est que nous n'arrivons même pas à exploiter 5% de nos terres arables alors que nous avons la vocation de nourrir toute l'Afrique. Alors, nous plaidons auprès du gouvernement et nous demandons aux travailleurs de revenir dans le sens de la raison. L'uniformisation du SMIC, c'était une erreur stratégique de la part du législateur. Pourquoi? Parce que le législateur n'a pas accompagné toutes les parties des mesures qui devaient suivre. Il n'y a pas eu de mesures d'allègement. Et même dans le cadre du code agricole, tout ce qui est prévu comme avantage du secteur, ça ne s'applique pas. On est en train de se prévoir des exonérations, par exemple pour l'énergie, les carburants et autres. Mais il y a des impositions. Et aujourd'hui, l'exploitation agricole est considérée comme étant une activité de déforestation, alors que nous avons des terres arables et que même la position du ministère de l'Environnement vis-à-vis de l'Union européenne dans le cadre des RDI, le règlement de l'Union européenne sur le bois, a présenté la différence entre les forêts et les terres arables que nous avons. Et aujourd'hui, à travers le géoportail du ministère de l'Aménagement du territoire, nous avons 80 millions des terres arables. Mais comment on peut subir les importations d'autres pays? Et si on essaie de comparer la situation de la République démocratique du Congo avec les pays voisins, l'Angola a plus de 10 000 entreprises agro-pastorales. De quoi les Angolais sont-ils meilleurs que nous? Mmh. Si on prend des petits pays comme le Burundi, il n'y a pas de petits pays. Mais par rapport à la superficie, c'est un pays allié, c'est un pays ami que j'aime beaucoup. Mais le Burundi a plus de 2 000 entreprises agro-pastorales et forestières. Et c'est un peu de faire des extrapolations en termes de statistiques pour voir le Grand Congo.
Donc vous estimez que l'État congolais ne crée pas des conditions favorables pour l'émergence de ces entreprises, surtout dans le secteur agro-pastoral. Merci Maître Lelo. Nous vous gardons dans cette émission pour la suite, hein, mais il est temps pour nous de prendre un auditeur en ligne. Éminent Mwanda nous appelle depuis Bukavu au sud Kivu. Bonjour Éminent Mwanda.
Bonjour Madame Jocelyne, bonjour à l'invité et bonjour à l'équipe qui vous accompagne.
Merci. Quelle est votre contribution à cette émission?
Moi, je sais très bien que la RDC est un pays solution sur le plan environnemental, parce que même quand on lit les démarches de l'ancienne ministre de l'Environnement, on trouve qu'il y a des potentialités de la RDC jusque-là, mais vraiment ne les développe pas.
Éminent Mwanda, on a du mal à vous suivre. Essayez de vous placer là où il y a moins de vent et de ne pas trop bouger.
Allô? Ici, ça va?
On a du mal à vous suivre.
Allô?
vous devez être sur une moto. Alors, allô, essayez de descendre de la moto, de vous placer à un endroit où il n'y a pas trop de vent et de nous rappeler. Entre-temps, Madame Kaloum et Mireille, Maître Lelo évoquait tantôt une erreur de la part du législateur, du gouvernement. Accord de l'autre côté, vous avez dit que vous auriez dû vous exprimer plus tôt. Et voilà, aujourd'hui, vous brandissez tous ces arguments. Est-ce que cette attitude ne fragilise pas la confiance qui doit y avoir, la confiance dans le dialogue social?
Oui, merci pour la question. D'abord, je tiens à rectifier, et cela est très important, il n'y a pas eu d'erreur de la part du gouvernement. Mmh. Le gouvernement a efficacement accompagné tant le secteur public représenté par les employeurs et les travailleurs, le banc des travailleurs, par, on va dire, des réunions régulières de conciliation, notamment dans le cadre du CNT, pour pouvoir justement arriver à une solution. Il faut savoir que le CNT est l'organe de référence, de consultation de toutes les questions en matière d'emploi. Mmh. Donc, le gouvernement, malheureusement, ne sait absolument rien faire si préalablement il n'y a pas d'accord entre les deux parties. Donc, même si cette consultation est facultative ou, on va dire, informative, c'était un préalable nécessaire. Donc, je tenais d'abord à rectifier ça. Et nous tenons d'ailleurs par cette occasion à remercier l'implication des membres du gouvernement. Alors, je voulais également revenir sur une question très importante, si vous le permettez. Vous avez demandé pourquoi est-ce que le secteur agricole était plus fragile que les autres secteurs. D'abord, il y a une notion très importante, en partant de la définition du SMIC, c'est que le législateur fixe le premier palier du SMIC. Il existe 17 échelons et le législateur, lui, ne fixe que le SMIC pour l'échelon le plus faible, celui du manœuvre ordinaire. Mmh. Pour vulgariser, le manœuvre ordinaire, c'est la catégorie des emplois qui nécessitera aucune formation, aucun diplôme, aucun effort particulier. Mmh. C'est par exemple l'emploi d'un balayeur ou
d'un vigile.
Par exemple, on pourrait le classer également dans cette catégorie-là. Mmh. Alors, maintenant, il existe ce qu'on appelle la tension salariale. Et j'étais très étonnée d'entendre un membre du banc syndical avouer ici avec force qu'il n'existe qu'un seul SMIC. Mmh. J'ai trouvé ça extrêmement grave de la part de quelqu'un censé être conseiller pour les travailleurs, parce que c'est ça qu'ils sont, les permanents syndicaux, qui disait qu'il n'y a qu'un seul SMIC. Non, en fait, il y en a 17. C'est-à-dire que le législateur fixe le premier palier et la tension salariale va décliner tous les
17
autres.
17, selon les grades, selon les niveaux, selon la formation.
Selon les échelons.
Voilà.
Voilà. Donc, on a le manœuvre ordinaire jusqu'au cadre de collaboration niveau 4. Mmh. Et donc, ça vous amène à un SMIG à 21 500 pour un cadre de collaboration niveau 4 de 2 500 $. Alors, fragilité qui vient de ce fait-là, qui fait que c'est ce même SMIG qui est appliqué pour toutes les entreprises, quel que soit le secteur, quelle que soit leur taille. Quand ce sont des grandes entreprises minières, par exemple, elles ont quand même plus de chances, le secteur se porte bien, elles peuvent prendre en charge de tels montants. Mais imaginez un petit peu la petite PME. Parce que vous savez, quand on est une PME, par exemple, on est indépendant, personne physique, un établissement, on déclare son salaire en tant que gérant. Aujourd'hui, vous allez déclarer votre salaire à 600-700 $. Et puis du jour au lendemain, vous PME, on vous dit, vous devez déclarer votre salaire à minimum 2 500 $. Vous voyez que pour un pays pour lequel le président de l'État prône par exemple le développement des PME, ou bien la revanche du sol sur le sous-sol, c'est une décision que le CNT a suggérée qui vient contrecarrer quelque part ces mesures qui ont été prises par le chef de l'État. Donc voilà, le secteur agricole est fragile parce qu'on lui impose un SMIC qui ne peut pas prendre en charge. Un de mes collègues avait pris un exemple sur la productivité sur un hectare dans la région du Kassai par jour. Que produit un hectare par jour pour quelqu'un qui produit du maïs, qui cultive du maïs? L'équivalent était de 5 000 francs. alors que par jour, on lui demande de payer 21 500 francs. Vous voyez qu'il
Donc on doit prendre en considération les secteurs d'activité, les chiffres d'affaires des entreprises aussi.
Voilà, en fait, le législateur a très bien préparé les choses, c'est ça qu'on dit. Mmh. Il a demandé d'ajuster le SMIC en fonction de la capacité financière des entreprises. De fixer le SMIC en fonction de la capacité financière. Et c'est ça qui n'a pas été fait, tout simplement. Mmh. Donc, on s'est réveillé un bon matin, on a décidé que le SMIC devait être à l'équivalent à l'époque de 10 dollars, sans avoir fait aucune étude. Mmh. Et c'est ça aujourd'hui qui coûte.
Nous allons prendre notre auditeur en ligne, Ismaël Mupoi, nous appelle depuis Lubumbashi. Bonjour Ismaël Mupoi.
Bonjour madame, je suis Bonjour madame.
Bonjour.
Quelle est votre contribution à cette émission et quelles sont vos questions?
Merci beaucoup pour m'avoir offert la parole. Je pense que la première question que je posais à madame l'invité, c'est le pays où il a le choix d'accepter ou de ne pas accepter le fait. L'entrepreneur ou un travailleur? Je pense que je viens de dire le concept.
Est-ce que vous pouvez répondre la question? Parce qu'on ne l'a pas très bien saisi.
La première question, je demandais de savoir qui doit accepter le barème par exemple. Un travailleur, un entrepreneur, bien que nous fixe un peu la modalité de taux de prix pour les autres. Qui doit être d'accord un entrepreneur ou un travailleur, c'est la première question. Mais par rapport à ce que je viens de dire, je pense que il y a un manque de considération pour le peuple congolais, surtout ceux qui travaillent. Vous sentez que ceux qui travaillent, c'est comme s'ils ne travaillent pas. Ceux qui ne travaillent pas, bon, se disent que c'est ça notre mode de vie. Vous imaginez, il y a certains secteurs dont si vous ne pouvez pas fixer le prix tel qu'il dit pour l'agriculture. Ou s'il s'agissait de fixer le prix, il avait fallu effectuer une étude à suivre pour savoir dans quel domaine de l'agriculture autant d'argent, de revenus, c'est combien, comment celui-ci gagne, comment le travailler, et sur quelle base, quel convoi ou quel travail simple pour fixer un peu le prix. Mais imaginez qu'on fixe par exemple le prix en général. Il y a ceux qui sont dans le secteur minier, il y a ceux qui sont dans l'agriculture, il y a dans le commerce. Mais on dit par exemple le montant que tu veux fixer là, je pense qu'il a fallu assez que tu retourne un peu revoir la modalité de paix pour vivre que tout le monde ne soit pas considéré au pied d'égalité, comme le minier, comme le paix, mais comme la même chose, non? Je pense que c'est une mesure à revoir. Mais dans le pays, il y a que l'offre n'a pas, il y a que la demande n'a pas l'offre, parce que ça coûte. Ou c'est la population qui doit subir plus un peu de la souffrance, parce que au lieu de prendre 20 employés, je vais prendre 5 ou 10. Et ceux qui travaillent vont travailler comme les animaux là, il n'y aura pas du repos, ils seront censés travailler dur par rapport à ce pays. Maintenant, si on n'équilibre pas, ça ne donnera pas le bon résultat, parce qu'on doit réduire autant de nombre de ceux qui travaillent pour vu qu'ils puissent bénéficier. Comme ils bénéficiaient par avant là, mais le salaire des autres sont ceux qui seront payés par ceux qui vont travailler. Je pense que le Congo a besoin aussi d'un travail de ça. Mais comment on peut arriver à cela? L'initiative de SMIC, c'est une bonne initiative, mais il faut savoir pallier sur l'offre et la demande. Cela aiderait beaucoup de gens. Est-ce qu'on a aussi des banques qui collent pour ceux qui cultivent? Vous êtes aussi dans le débrouillard. Même s'il y a la pluie, on se débrouille. Vous engagez une personne, il y a des fois, si je dis que je dois payer autant, il faut que je donne une fois, je multiplie fois deux ou fois trois par rapport à ce qu'une personne travaille. Je sais que c'est ça mon niveau d'intervention. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Ismaël Mupoi, depuis Lubumbashi. Je rappelle notre numéro de téléphone pour ceux qui veulent intervenir aussi dans cette émission. 085 42 11 547. Madame Mireille Kaloumé, que répondez-vous à notre auditeur qui nous appelle de Lubumbashi?
Oui, merci Monsieur Moupoy pour votre question. Je ressens dans votre voix la, on va dire, l'amertume et la difficulté que traverse, nous le reconnaissons en tant qu'employeur, malheureusement beaucoup de travailleurs. Mais c'est très important de refixer le contexte de départ. Alors, il a beaucoup parlé, Monsieur Moupoy a beaucoup parlé de l'offre et la demande. Ce qu'il faut savoir et qui est très important, c'est que malheureusement, l'offre, comment dirais-je, au niveau de l'économie de la RDC est captée malheureusement par 80% du secteur informel. Mmh. Lorsque vous prenez le secteur économique en RDC, vous avez seulement entre 15 et 20% d'entreprises qui travaillent dans le formel, mmh, et 80% qui travaillent dans l'informel. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie concrètement que lorsque vous avez un marché qui est ouvert et que vous avez une entreprise qui est dans l'informel, donc qui ne paye pas les taxes, mmh, cette entreprise-là, parce qu'elle a moins de charges, vu qu'elle ne paye pas les taxes, sera en mesure d'offrir un prix qui est beaucoup plus attrayant, mmh, qu'une entreprise qui évolue dans la conformité, qui paye ses taxes,
qui paye
correctement ses travailleurs, mmh, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui payent énormément, bien évidemment, ce sont les travailleurs du secteur formel. Mmh. Pourquoi? Parce que soit leurs employeurs ne savent pas modifier les prix. C'est le cas de l'agriculteur. L'agriculteur est confronté au prix du marché. Il ne peut pas fixer, dire, OK, moi, on me demande de payer 21 500 par jour, alors que je ne produis que 5 000 francs par jour. Je vais augmenter le prix du sac de farine à autant. Non, il ne peut pas le faire. Donc le prix est fixé sur le marché, les prix sont encadrés par le ministère de l'économie. En passant, justement, le ministère de l'économie réalise un travail très très important au niveau des prix. Donc ça, c'est une chose qui est très importante à retenir. Et c'est pour ça que, nous l'avons dit, tout le point de départ de la question du SMIG est parti de la grève dans un secteur particulier, et grève qui a conduit effectivement à constater qu'il fallait réajuster. Les employeurs ne le contestent pas. Il fallait réajuster parce que depuis 2018, le SMIG avait dévalué à cause de la dépréciation de la monnaie. Donc c'était important. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, si on fixe un SMIG, il est important qu'on s'assure derrière qu'il est bien appliqué par le secteur formel et qu'on réduise l'ampleur du secteur informel. Comment est-ce qu'on le fera? L'inspection du travail a un rôle majeur dans la question. Si aujourd'hui l'inspection du travail est renforcée dans son pouvoir d'exercice, je pense que, et par ailleurs par une réduction de la fiscalité, je l'ai dit tout à l'heure, le SMIG, il y a des
cotisations. Et la formalisation aussi des entreprises qui ne sont pas formelles.
Exactement.
Et qui représentent 80% du marché.
Exact. Le SMIG, aujourd'hui, on paye des cotisations dessus, on paye des taxes. Si ces cotisations sont réduites, mais c'est un incitant pour non seulement les entreprises.
Mais est-ce que ces cotisations augmentent aussi dans le même sens que les SMIG?
Mais heureusement que vous me posez la question, parce que figurez-vous qu'à l'occasion donc de la 36e session du Conseil national du travail, il y a eu des décisions qui se sont faites au même moment. L'augmentation du SMIG et l'augmentation des cotisations patronales que sont l'ONEM et l'INPP. Donc l'ONEM était fixé jadis à 0,2% du brut. Et actuellement, il est passé, donc il a doublé, il est passé à 0,5%. L'INPP était fixée selon l'effectif de l'entreprise à 1, 2 ou 3%. Il a été augmenté de 1% à 2%, de 2% à 3% et de 3% à 3,5%. Et alors, très important aussi, logiquement, ce qui aurait dû être fait lors de la fixation du SMIG, c'est qu'on aurait dû revoir les paliers d'application ou de calcul de l'IPR. On n'a pas revu ces paliers. Ça fait qu'aujourd'hui, en partant de 7 075, qui était l'ancien SMIG, à 21 500, on a un SMIC qui passe de 3% à pratiquement 15%, ce qui est totalement anormal.
Mais il y a le 14 000 qui amortit quand même ce choc-là. On y va graduellement.
Oui, mais l'IPR était et à 14 000 était déjà à plus ou moins 10%. Donc, si vous voulez, le travailleur perçoit plus. Plutôt que de garder ces mêmes 3% pour le manœuvre ordinaire, qu'est-ce que l'IPR fait ? L'IPR augmente et passe à 10%. Ce n'est pas normal. Donc, tout ça, c'est des recommandations pour assurer M. Moupoy que l'employeur lui-même avait fait pour vous montrer sa bonne foi. Ils ont dit au syndicat, au banc syndical, écoutez, en dehors du SMIC, il y a beaucoup de choses à faire. Revoyons la CNSS. Revoyons les cotisations CNSS, revoyons l'IPR, parce que ça va vous donner encore plus de pouvoir d'achat. Donc, pour assurer M. Moupoy que l'employeur était vraiment placé dans la lignée du bien-être du travailleur.
Et M. Moupoy évoquait aussi la considération des employés, le travail décent. Il y en a même, il y a d'autres travailleurs qui disent que 21 500 dont on parle, reste insuffisant, Madame Calumet. On va poser la question à Maître Lélo qui est en ligne, il peut répondre. Monsieur Lélo, 21 500, insuffisant selon certains travailleurs, beaucoup de travailleurs. Que répondez-vous à cela?
Oui, merci. Je dirais à Monsieur Montoy, même à nos fidèles auditeurs, d'essayer de faire la distinction entre l'économie rurale et l'économie urbaine. Cette dichotomie est très importante. Pourquoi ? Parce que c'est l'une des fragilités du secteur agro-pastoral et forestier. Vous avez 30% des chiffres d'affaires des sociétés agro-pastorales et forestières qui sont consommés, dépensés dans la construction des routes, écoles, hôpitaux, et autres charges sociales en dehors des autres dépenses. Déjà, vous avez une société qui dépense 30% de son chiffre d'affaires, mais également cette société-là ne peut pas attendre réagir, répercuter. Et je crois que Mme Mireille a parlé des contraintes de prix. Le prix dépend du marché, le prix ne dépend pas du producteur. Au-delà de ça, ce producteur est tenu de faire face à des produits subventionnés et ce producteur est tenu de faire face à la concurrence déloyale des entreprises du secteur informel, mais également à des fraudes de la majorité des entreprises qui sont installées tout au long des frontières avec une fiscalité incitative, des avantages, des subventions et qui inondent notre marché et qui fragilisent notre production local. Et comme Mme Mireille l'a dit, c'est qu'aujourd'hui, l'équation dans le secteur agro-pastoral et forestier, c'est de tenir compte de la vulnérabilité par rapport aux charges, par rapport aux difficultés d'ordre logistique, mais au-delà de ça, c'est également de tenir compte des réformes ambitieuses qui doivent être engagées, notamment mettre en place un moratoire. Engager la réforme du SMAC, accorder les allègements et progressivement, nous saluons les efforts du ministre de l'Agriculture et de l'Économie et même des ministres de la 20e fonction publique qui a démontré la nécessité de réintégrer les SMAC. Pourquoi ? Parce que, madame, je vous donne un exemple. Pour parler même de la considération vis-à-vis des travailleurs, il n'y a aucun secteur qui a pris ces considérations que le secteur agro-pastoral et forestier. Je donne un exemple. Je prends une des sociétés du secteur, la société PHP, qui a construit plus de 40 écoles avec 10 000 élèves. Aujourd'hui, PHP a construit plus de 20 centres de santé, il y a des hôpitaux, et aujourd'hui, la consultation gratuite des communautés locales des travailleurs et des dépendants, c'est 160 000 consultations des patients. Et aujourd'hui, il n'y a pas la vie en milieu rural sans le secteur agro-pastoral et forestier. Et vous avez environ 11 000 emplois stables. Et au-delà de ça, le secteur est fragile aussi en ce que, madame, il faut investir pendant 5 ans ou 7 ans pour l'activité pérenne. Le retour d'investissement est trop lent. et l'accès au crédit. Mmh. Et qu'aujourd'hui, nous disons à nos frères et sœurs travailleurs, et même au gouvernement, de voir dans quelle mesure concilier la productivité de l'entreprise mmh. ou des entreprises de secteur, ainsi que les traitements équitables des travailleurs. Aujourd'hui, on ne sait pas séparer le droit des entreprises ou le droit des affaires avec le droit du travail. C'est que il n'y a pas d'entreprise sans travailleurs, il n'y a pas de d'emploi sans entreprise. Et nous devons mutualiser nos efforts et évoluer ensemble pour construire une prospérité partagée, parce que les autres, ils ont des subventions, ils ont des avantages, et nous ne pouvons pas prendre le risque de se transformer à une société de consommation. Vous avez des grandes sociétés comme la Bralima qui est en train de fermer, la Bralima fermée à
un niveau peu partout des à travers le pays. La Bralima fermée
au niveau des Bukavu. Mm. Alors, c'est que vous avez cet environnement et vous avez Bukine qui est fermé. Et quand les sociétés sont en train de tirer une sonnette d'alarme, je crois que la société doit être un peu très réceptive. Sinon, on commence à importer des bouteilles. Nous qui fabriquons des bouteilles, on commence à importer des bouteilles. Madame, c'est encore plus grave. Le groupe Heineken insiste pour la consommation du riz local, pour apporter une plus-value à l'économie. Mais aujourd'hui, le riz vient de la Malaisie parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une production locale abondante. Qu'est-ce qu'on va reprocher à cette société qui respecte l'éthique et qui veut le bien-être des Congolais? C'est que nous sommes en face des difficultés. On doit importer des engrais, on doit dépendre de tout ce qu'il y a comme difficulté. Engageons des réformes structurelles. Et Madame Mireille Kaloum vous a bien dit que les entreprises du secteur SMIG en général, ils sont bien disposés à appliquer 21 500, mais allons graduellement. Tenons compte de tout ce qu'il y a comme choc aujourd'hui à travers le force du gouvernement, cette situation à monsieur le gouverneur de la Banque centrale et la politique du gouvernement et du chef de l'État. Aujourd'hui, il y a une appréciation du franc congolais à 30%. C'est un facteur qu'il faut prendre en considération. Nous sommes un pays en guerre. Et dans ce contexte international de la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël, tout ce qui se fait au niveau international, bientôt il y aura une crise énergétique sans précédent avec des effets d'entraînement dans tous les secteurs. Et je crois que nous sommes tenus à développer une logique d'anticipation stratégique et parfois faire de nos faiblesses une force pour bondir et aller ensemble. C'est que les entreprises qui appliquent les techniques en général, d'autres secteurs, elles sont de bonnes fois.
Merci maître Lelo. On va revenir à vous tout à l'heure. Mais rendons-nous d'abord dans l'ouest du pays, à Matadi, pour prendre cet appel de maître Gaston Ngandou. Bonjour maître Gaston Ngandou, votre contribution et vos préoccupations à nos invités.
D'accord, merci à vous. Bonjour.
Bonjour.
Je voulais vous dire que normalement, les SMIC fait allusion ici concerne plusieurs catégories hein, de travailleurs. Mm. Si, je voulais aussi demander si les agents fonctionnaires de l'État sont soumis aussi à l'ère SMIC. Mais quand parlons d'abord des travailleurs, ceux qui sont régis par le Code du travail, moi je pense que il y en a de plusieurs catégories, les SMIC, mais les problèmes se posent au niveau de manœuvrer, hein, si je peux les qualifier ainsi, des employés qu'on qualifie de ceux qui n'ont pas la qualification, quoi. Ceux là, actuellement, sont régis par ce que nous qualifions des entreprises de sous-traitance. C'est là où je voulais aussi demander un peu à l'invité. Cette notion de la sous-traitance, où on vous dit, vous travaillez, je sais pas, vous savez les travaux, hein, souvent les travaux manuels. Vous travaillez pendant 8 heures du temps, 9 heures, et vous avez 7 dollars. Vous avez 7 dollars, c'est le minimum. Vous avez 7 dollars, on calcule ça par mois. On vous donne ce qu'on va vous donner, vous n'avez pas les transports. De rentrer chez vous, vous n'avez même pas la ration pendant le travail, la journée, même pas de pause. Hein. Donc je pense que le problème, c'est nous éclairer un peu par rapport à ces mouvements que nous constatons de... Les entreprises de sous-traitance qui collabore normalement avec les quelques employeurs que nous avons ici, qui vous donne, par exemple, qui donne à l'entreprise $20 par heure pour un travailleur, mais je pense que ça se négocie dans ce sens-là, hein, si je n'ai pas exagéré. Mais ces gens-là, ce qu'ils demandent par travailleur, par heure, c'est pas ce qu'ils donnent. Ce n'est même pas les 0,001% qu'ils donnent à ceux qu'ils emploient, là, les travailleurs manœuvrés, qui sont majoritaires. Qui sont majoritaires dans notre pays parce qu'on n'a pas assez de cadres, on en a, mais qui sont dans ces mouvements-là. Et puis, deuxièmement, je pense que vous me suivez là.
On vous écoute, Maître Gaston.
D'accord, oui. Il y a aussi ce problème de ces structures que venait de faire allusion à la Société nationale, je pense que c'est ça, la Caisse nationale de la sécurité sociale. Il y a l'INPP. Et je pouvais aussi qui perçoivent, hein, dans les salaires qu'on donne aux messieurs et aux travailleurs qui sont dignement connus comme travailleurs, on donne un salaire que vous avez que l'invité même qualifié de traitement, où on applique et on connaît les SMIG, mais au moins l'INPP là, il vient, il perçoit ces pourcentages. Je pense aujourd'hui on vous parle de 8 et quelques là. L'INPP la même chose. Il y a même l'hyper, hein, lorsque vous voulez, l'hyper qui est perçu par les travailleurs pour le compte de l'État. Il y a même la TVA, je peux même aller, lorsque vous voulez aller acheter, on vous impose encore quelque chose. Toutes ces charges-là, par rapport à ce qu'on nous présente comme SMIG, par exemple, pour vous dire, vous avez $5 par jour, vous avez $20, tout. Vous voyez pas, c'est vraiment anormal. Mais moi, je pense que c'est vraiment, il y a beaucoup d'escroqueries en la matière qu'on nous éclaircit un peu concernant les sociétés et sous-traitants. Et pourquoi pas un SMIC qui peut faire que la personne puisse supporter ses transports, les transports de la journée, il puisse nourrir la journée, nourrir sa famille. C'est aussi un cas de maladie. Cette somme-là puisse rentrer en compte. Pourquoi c'est ce que nous ne comprenons pas chez nous? On va nous parler de beaucoup de choses, il n'y a pas d'emploi, on ne crée pas, on ne produit pas. Mais au moins, il y a des gens qui sont employés, utilisés actuellement, par exemple, dans les constructions, qui construisent dans ces pays. On voit des immeubles pilés par là, par-ci, par-là. Et ceux qui construisent là, ce sont simples, je peux qualifier même ça d'esclavage, d'esclavagisme.
Merci beaucoup, bon, Maître Gaston Gandou. Merci de nous avoir appelé depuis la ville de Matadi, dans le Congo central. Madame Mireille Kaloumé, que répondez-vous à Maître Gaston Gandou?
Oui, voilà. Merci, Maître Gaston, pour vos questions. Alors, le premier point, vous demandiez si les agents et fonctionnaires de l'État étaient soumis au Code du travail. Effectivement, lorsque vous considérez les entreprises du portefeuille de l'État, vous considérez également certains établissements publics. Ce sont des entités qui sont soumises au Code du travail. Et vous faites bien de poser la question, parce que dans le cadre des discussions qui ont eu lieu lors de la 36e et 37e session du Conseil national du travail, le banc des employeurs est représenté par plusieurs corporations, notamment une corporation qui représente les employeurs de l'État, si je puis dire comme ça. Et ces corporations cette corporation fait également état des difficultés d'application du SMIC pour les entreprises du portefeuille de l'État et pour certaines entités, entreprises publiques. Il ne faut pas être magicien pour le comprendre. Je pense que vous avez entendu parler des arriérés de salaire et de tous les problèmes de grève qu'il y a dans ces différentes institutions-là, vous comprendrez que si déjà elles ne savent pas payer l'ancien SMIC, par quelle magie est-ce qu'elles vont pouvoir payer et régulariser tous leurs problèmes et pouvoir payer un SMIC de 21 500 ? Donc ça, c'est une réalité dont ils ont fait état à l'occasion non seulement du CNT, mais des réunions bipartites que nous avons menées ensemble. Ensuite, vous avez également posé le problème de la sous-traitance. C'est un problème qui est très important, effectivement. Toutes les entreprises du secteur privé sont soumises au Code du travail et donc sont dans l'obligation d'appliquer le SMIC. Il n'est pas normal que certaines sous-traitances n'appliquent pas ce SMIG. Et vous avez tout à fait raison, Maître Gaston. Et comme on l'a dit un peu plus tôt, il revient justement au pouvoir public d'organiser le contrôle pour s'assurer finalement que toutes ces entreprises rentrent dans le secteur formel en payant ce qui est dû. Donc voilà, je pense avoir dit l'essentiel sur ce point-là. Et donc, en fin de compte, le troisième point, SMIG qui est grévé de la CNSS, INPP, IPR, on l'a dit, ce sont des cotisations qui ont une contrepartie derrière, mis à part l'IPR qui est devenu IRPP, qui est l'impôt. La CNSS, l'INPP sont payés, mais il y a un retour normalement qui est attendu de la part des employeurs et des travailleurs. CNSS, les allocations familiales, les indemnités de maternité. Est-ce que vous savez que c'est le banc employeur qui a dû rappeler à l'intersyndicale, à l'occasion de ces travaux de CNT, que ces questions étaient essentielles, qu'il ne fallait pas seulement discuter du SMIG? Alors, plutôt que de mettre en avant toutes ces problématiques-là, des employeurs et des travailleurs qui ne perçoivent pas leurs allocations familiales, l'intersyndicale a préféré défendre son dossier relatif au glissement, comme on le dit, ou bien aux élections syndicales. Ils voudraient prolonger leur mandat à 5 ans plutôt que de rester sur les 3 ans qui sont fixés. Donc, Maître Gaston, vous avez tout à fait raison, ce sont des problématiques.
Peut-être pour faire le suivi des sujets en suspens.
Alors, commençons déjà dès maintenant. Les employeurs leur ont dit à l'occasion des bipartites en disant « Nous sommes partenaires. Si nous perdons, vous perdez. Si vous n'êtes pas bien, nous ne sommes pas bien non plus. Donc, nous avons intérêt à travailler main dans la main. » En tout cas, c'est le mot d'ordre qui avait été communiqué par les employeurs.
Merci, Madame Mireille Kaloumi. On va prendre Emina Mwanda, qui est de retour, et espérant que la liaison sera plus claire cette fois-ci. Emina Mwanda, bonjour.
Bonjour madame, bonjour à vos invités.
On vous écoute, Emina Mwanda.
Bon, je sais très bien qu'il est très important et c'est un sujet capital pour la vie des habitants qui traversent le moment le plus difficile, surtout à l'est du pays. L'activité agro-pastorale à RDC devait avoir un encadrement spécial pour penser à un meilleur rendement. Quelques questions aux invités. De quelles dispositions légales ce secteur est régi? Parce que si ce secteur-là est régi par la convention collective, quel est leur barème salarial horaire? Parce que si ce secteur-là n'a pas de lois claires, c'est à cause de ça que la RDC, c'est que les travailleurs évoluent dans ce domaine-là, souffrent. Il y a beaucoup de désordres. Moi, je prends l'exemple de Chabunda, où quelqu'un qui a fini en vétérinaire et commence à ses activités, il y a d'abord la surtaxation, il y a aussi les impositions, ça non, mais il faut aider les auditeurs ici, et qui sont en train de nous suivre. Quels sont réellement les prélèvements fiscaux que le travail et dans ce secteur-là devrait subir? Troisième question pour finir, au lieu de monopoliser la parole, madame Yosemite.
Merci.
Pourquoi la RDC, comme pays, n'a pas pensé à des subventions en cas de faillite de certains opérants, soit de certains travailleurs dans ce domaine? Parce que quand quelqu'un travaille en cas de faillite, on doit toujours penser à une subvention de l'État. Est-ce que actuellement l'État congolais peut nous dire qu'il pense, soit qu'il a déjà subventionné certains travailleurs en faillite jusqu'à ce niveau?
Merci Emina Mwanda pour votre contribution. On va donner la parole à Maître Lelo pour répondre à notre auditeur. Maître Lelo, à vous la parole.
Merci. Je pense bien qu'il a bien voulu parler des employeurs en lieu et place des travailleurs. En termes de droits, les travailleurs, tous les travailleurs ont le même droit. Et je crois que les travailleurs du secteur agro-pastoral et forestier, ils ont des logements. Madame, je vous donne les cas des PHP. Je peux vous donner les cas de Kulungongo, la sucrière de Kulungongo. Je peux vous donner les cas de la plantation Miluna. C'est plus des milliers de logements qui sont accordés aux travailleurs et un cadre de vie décent, soins de santé, accès à l'éducation aux enfants. Et au-delà de ça, ce sont des travaux saisonniers. Et le reste du temps, le travailleur contribue même à son entrepreneuriat individuel et il sait concilier le travail dans la société avec une certaine flexibilité. Les réalités du secteur agro-pastoral et forestier sont des réalités spécifiques liées au monde rural. Et je crois qu'en termes de bien-être, il y a un minimum de bien-être. S'agissant des subventions, les entreprises ne bénéficient pas. Les entreprises de ce secteur ne bénéficient pas des subventions. Et au-delà de ça, la difficulté structurelle de ce secteur, c'est que les décisions ne peuvent même pas venir d'un seul ministre. Vous avez le ministre de l'Agriculture qui intervient, il y a le développement rural, il y a l'environnement, il y a le ministre de l'Industrie, et c'est une chaîne qui fait intervenir plus de 10 ministres et qui exige une certaine rationalité de la fiscalité. C'est comme ça que, par exemple, parmi la demande des entreprises de ce secteur-là, c'est d'avoir un guichet unique. Et voilà pourquoi nous saluons le dynamisme du nouveau ministre de l'Agriculture et même du ministre de l'Économie qui essaie de prendre en considération les problèmes structurels de notre économie pour apporter des solutions structurelles durables et non des solutions conjoncturelles qui ne peuvent pas nous aider à aller de l'avant.
Merci Maître Lelo. On va conclure, on va accorder la parole à Madame Ursule pour conclure l'émission parce que nous sommes arrivés à la fin. Madame Mireille Kaloumé, on termine avec vous. Et si le gouvernement maintient son calendrier, qu'est-ce qui se passe? En quelques secondes pour conclure.
Il est très important que, d'abord pour le secteur agricole, on puisse octroyer un moratoire.
Et si d'une manière générale, hein, oui, parce que c'est ça concerne tout le monde.
Aujourd'hui, il y a, rien qu'au mois d'octobre, il y avait déjà une vingtaine de lettres de demandes de licenciement massives qui ont été déposées par les employeurs. Il y a des centaines de milliers d'emplois qui sont en jeu. C'est pour ça qu'urgemment nous demandons un moratoire. Parce qu'aujourd'hui, si on maintient ces 21 500, toutes les entreprises...
Un moratoire de combien de temps?
Un moratoire le temps que le SMAG puisse être mis en place parce qu'il doit engager une modification du code du travail. Et également toutes les mesures d'allègement qui doivent être prises. Et ensuite, il faudrait, pour une évaluation, une mise en place progressive, 16 500, 19 500 et 21 500 après évaluation, c'est très important. Donc c'est ce que nous proposons au gouvernement aujourd'hui.
Merci Madame Mireille Kaloumé, merci Maître Ursule Lelo, merci à vos chers auditeurs d'avoir participé à cette émission. On se retrouve après le bulletin d'information.